Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le travail est un élément fondamental de la dignité humaine, mais peut conduire à l'esclavagisme. Un bilan et un plaidoyer, le pape est revenu longuement sur le sens du travail ce mercredi, en reprenant la figure de Saint-Joseph que l'Église fêtait ce 1er mai. Les difficiles conditions de travail, on les a vues crûment ces derniers jours avec la catastrophe de Dhaka au Bangladesh. Nous entendrons l'archevêque de la ville demander plus de justice pour les ouvriers locaux. Un mois après la prise du pouvoir par les rebelles, la situation en Centrafrique est toujours très précaire. Des prêtres et des laïcs ont mis en place un collectif de solidarité pour sensibiliser le Saint-Siège et l'Union européenne aux souffrances d'une population oubliée du reste du monde. Dans ce magazine, nous vous parlerons aussi de cette conférence qui s'ouvre à Londres sur le dialogue interreligieux et qui rassemble les épiscopats européens. Et puis nous ferons de l'histoire avec l'anniversaire de l'édit de Milan qui autorisa le culte chrétien à Rome. C'était il y a 1700 ans. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Le travail au cœur de la réflexion du pape François en ce 1er mai, devant une place Saint-Pierre de nouveau noir de monde avec près de 70 000 personnes réunies, le pape a tenu son audience générale et est revenu sur la figure de Saint-Joseph dont l'Église fêtait la solennité ce 1er mai. L'occasion de développer une réflexion sur le sens du travail. En grandissant au sein de la Sainte Famille, Jésus a appris de Joseph le métier de charpentier, partageant avec lui l'effort, la fatigue et la satisfaction, mais aussi les difficultés de chaque jour, a dit le pape. Ceci nous rappelle la dignité et l'importance du travail. Le travail qui fait partie du plan de l'amour de Dieu, le travail un élément fondamental pour la dignité d'une personne.
Penso alle difficoltà che in vari paesi incontra oggi il mondo del lavoro e dell'impresa.
Le pape qui a ainsi pensé aux difficultés qui dans différents pays touchent le monde du travail et de l'entreprise, pensant en particulier à tous ceux qui sont au chômage, en partie a-t-il dénoncé à cause d'une conception de la société qui cherche le profit égoïste sans prendre en compte les paramètres de la justice sociale. Le pape François a appelé ainsi les responsables publics à ne pas ménager leurs efforts pour donner un nouvel élan au marché du travail et s'est tourné en particulier vers les jeunes, les invitant à ne pas avoir peur de l'avenir et à garder l'espérance. Mais les mots les plus forts du pape ont été prononcés pour dénoncer le travail qui rend esclave. François, qui a fait référence à la récente tragédie au Bangladesh, et lancé un plaidoyer contre l'esclavagisme qui concerne hélas trop de personnes dans le monde.
Chiedo ai fratelli e sorelle nella fede e a tutti gli uomini e donne di buona volontà una decisa scelta contro la tratta delle persone all'interno della quale figura il lavoro schiavo.
Je demande aux frères et sœurs dans la foi et à tous les hommes de bonne volonté de lutter de manière décisive contre la traite des personnes humaines, en particulier à travers cette forme de travail qui rend esclave. Peu après l'audience, le compte pontifex du pape envoyait un nouveau tweet adressé en particulier aux jeunes. « Chers jeunes, mettez-vous à l'école de Saint-Joseph. Il a connu des moments difficiles. N'ayant pas perdu confiance, il a pu les surmonter. » Vous l'avez entendu, le pape a évoqué la tragédie du Bangladesh la semaine passée où un immeuble abritant des ateliers d'ouvriers du textile s'est effondré, provoquant la mort de plus de 400 personnes. Le drame a provoqué une vive émotion dans le pays et bien au-delà, jetant une lumière crue sur les ravages de la mondialisation où il faut désormais produire au plus bas coût. Dans ce pays de près de 155 millions d'habitants, les chrétiens ne représentent qu'à peine 1% de la population. Pourtant, l'église locale n'a pas ménagé ses efforts et s'est mobilisée après le drame pour venir en aide aux victimes, comme nous le raconte Mgr Patrick Di Rosario, l'archevêque de Dhaka, la capitale.
I called up Caritas and I called up the parish.
J'ai appelé la Caritas et les paroisses et ils ont organisé des équipes de secours dont certaines ont rejoint les autres équipes. Ces derniers jours, ils ont énormément travaillé. Il y a aussi les sœurs de Mère Teresa qui se sont rendues sur les lieux du drame pour s'occuper des victimes. Je leur ai dit de ne pas œuvrer comme une présence officielle, mais plutôt d'être présent comme le bon samaritain en faisant tout ce qu'ils sont capables de faire. C'est un vrai malheur. Ce type d'accident a déjà eu lieu et se reproduit de nouveau, et tout le pays est sous le choc. Mais la leçon à tirer est qu'il n'y a pas que les immeubles d'ateliers textiles qui sont concernés. 90% des bâtiments construits l'ont été dans des zones vulnérables et les normes de construction n'ont pas été suivies. Le gouvernement et le peuple ont à présent conscience qu'il faut vraiment faire quelque chose. Ils ne peuvent pas laisser les choses en l'état à cause de la corruption qui se poursuit. Donc, il faut vraiment que ça change. Mais la réponse vient aussi de la communauté internationale, où l'on achète les produits fabriqués ici. Ils veulent un travail qui ne coûte rien, ils viennent ici mais ne voient pas les conditions dans lesquelles vivent les gens, combien ils sont payés, si les droits sont respectés ou non. La justice doit vraiment être faite pour les travailleurs. Des propos recueillis par Suzy Hodges de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Et les manifestations étaient une nouvelle fois importantes à Dhaka, la capitale bangladaise. Manifestations d'ouvriers notamment pour demander des meilleures conditions de travail. Partout dans le monde, les défilés ont été nombreux pour commémorer cette fête du travail. Et sans surprise, dans de nombreux pays, les slogans étaient marqués par l'inquiétude d'un monde frappé par la crise. En Italie, un an après le séisme qui a frappé la région de l'Émilie-Romagne, le cardinal Carlo Caffara, l'archevêque de Bologne, a lui célébré une messe ce 1er mai dans une usine de céramique détruite par le tremblement de terre. Cette usine est située dans la province de Ferrare, l'une des plus touchées par le séisme. Dans ce lieu durement frappé, a dit le cardinal, vous avez démontré une volonté de reconstruction plus forte que toute adversité pour que le travail puisse reprendre. Vous avez donné un grand témoignage de courage et de solidarité véritable, a dit le cardinal aux nombreux ouvriers présents. La situation en Centrafrique reste préoccupante un mois après la prise de pouvoir de la coalition rebelle du Seleka. Exactions armées, pillages et autres réquisitions forcées se poursuivent à Bangui et à l'intérieur du pays. La cohabitation se fait chaque jour plus difficile entre civils et combattants. Tels sont les témoignages qui parviennent aux citoyens centrafricains qui vivent à Rome. Certains parmi eux, une quinzaine de prêtres ainsi que des laïcs, étudiants ou travailleurs, ont ainsi mis en place un collectif de solidarité. Leur objectif, sensibiliser le Saint-Siège et l'Union européenne aux souffrances d'une population oubliée du reste du monde. Écoutez le coordinateur de ce groupe, Don Gabriel Maizuka. Il est interrogé par Manuela Afiji.
Les autorités n'existent même plus et donc ce sont les officiers de ces quatre groupes de rebelles qui font la loi dans le pays. Le chef de la junte en ce moment au pouvoir est même dépassé parce qu'il n'arrive même pas à mettre de l'ordre les troupes qu'ils ont armées et qui sont leurs alliés. Et donc la population est complètement laissée sans défense à la merci de ces troupes qui font les exactions en ce moment.
Vous êtes à l'origine d'une initiative, vous et d'autres prêtres centrafricains qui sont à Rome. Vous voulez sensibiliser les autorités européennes et les autorités vaticanes à ce qui se passe dans votre pays.
Exactement, parce que c'est un pays qui est abandonné à lui-même. Il y a des années déjà, on cohabitait les chrétiens et les musulmans dans ce pays. Aujourd'hui, on assiste à un laisser-aller. Et alors, nous avons estimé que nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous avons décidé de porter au niveau de l'Europe ici, au niveau de l'Union européenne, de porter la voix de cette population. Nous voulons plaider, c'est un plaidoyer que nous voulons faire, plaider pour que la sécurité puisse revenir, pour que le citoyen centrafricain puisse se sentir libre et ne pas être inquiété par celui qui porte des armes, parce qu'en ce moment, l'armée nationale n'existe plus, la gendarmerie, la police n'existe plus. Alors, seulement ceux qui sont venus, ils font leur loi, et alors la population est laissée comme ça. Nous plaidons pour que s'il y a des solutions, s'il y a des possibilités, remettre la sécurité, restituer la dignité de l'homme, parce que c'est ça l'essentiel que nous voulons.
Est-ce que vous avez lancé un appel au pape François et qu'est-ce que vous attendez concrètement de la part du pape et du Saint-Siège?
Nous plaidons pour que et les autorités de l'Église catholique et les autorités politiques de l'Union européenne puissent être attentifs à ce qui se passe dans ce pays. C'est c'est vrai que la Centrafrique n'est pas très, très, très connue au niveau mondial parce qu'elle n'intéresse peut-être pas beaucoup de monde. Mais nous plaidons pour que le Saint-Père puisse interpeller les autorités de ce pays pour que la souffrance de ce peuple-là puisse au moins s'arrêter. C'est un drame qui se passe en ce moment dans ce pays. Si on n'intervient pas maintenant, ça risque d'être trop tard. Et alors, quand on se réveillera un jour, ce serait irrémédiable, la situation en ce moment.
Restons un instant en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Le pays a longtemps été coupé en deux après la longue crise électorale il y a 2 ans et cherche toujours son unité. La comparution de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République, devant la Cour pénale de La Haye a renforcé les clivages, mais les Ivoiriens veulent malgré tout aller de l'avant. Les défis sont très nombreux, et notamment pour l'Église, qui s'est sentie parfois mise à l'écart, comme nous l'explique le père René Agbo, l'ancien directeur de la Caritas dans le pays.
Nous nous sentons de guerre. Pour vous dire la vérité, nous n'avons pas tellement senti l'accompagnement du Vatican pendant nos problèmes. Voilà, donc nous attendons que ce pape-là se penche beaucoup plus sur des problèmes spécifiques. Les prières, d'accord, mais aussi dans certains messages, des messages forts. Et ne pas attendre que, je dirais, tout se gâte avant de venir comme des pompiers. Et c'est ce que nous avons ressenti en Côte d'Ivoire. Hein. C'est vrai que nous avions un nonce sur place, mais on attendait beaucoup plus du Vatican même, du pape.
D'un point de vue pastoral, quelles sont les priorités de votre Église aujourd'hui ?
C'est faire en sorte que l'unité soit rétablie, l'unité entre les Ivoiriens. Et donc, je dirais, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a décidé pour cette année pastorale que nous ayons un même thème pastoral qui est qu'ils soient un afin que le monde croit. Habituellement, c'est chaque diocèse, chaque Église particulière qui choisit son thème, mais vu cet objectif que nous recherchons tous, c'est-à-dire la paix sincère définitive en Côte d'Ivoire et l'unité, l'union nationale, les évêques ont décidé, ont choisi ce thème-là pour tous. Notre travail aujourd'hui consiste à réconcilier les cœurs, à prêcher la paix, à demander qu'il y ait la cohésion, l'union et l'unité entre tous les frères d'un même Père, Dieu Tout-Puissant.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. La troisième rencontre des évêques et délégués pour les rapports avec les musulmans en Europe s'est ouverte ce mercredi à Londres et durera 3 jours. Le thème de cette rencontre est « La vérité du dialogue ». Dans un communiqué, le Conseil des conférences épiscopales d'Europe, le CCE, souligne que l'expérience du continent européen dans le dialogue interreligieux, notamment avec les musulmans, jouit d'une longue tradition et dans certaines parties du continent représente une réalité très ancienne dont les expériences et les résultats sont très positifs. Mais les modalités de ce dialogue ont changé et invitent à la réflexion. Olivier Tosserie.
La vitesse des changements qui caractérisent nos sociétés nous impose d'adopter des termes pastoraux nouveaux et efficaces pour établir un véritable dialogue interreligieux, note le CCEE, en particulier par rapport aux nouvelles générations qui ont du mal à se repérer entre les tendances relativistes et syncrétistes, entre le fondamentalisme ou les fermetures défensives. Le dialogue concret entre personnes de religions différentes est possible et nécessaire, affirme Mgr Duarte da Cunha, le secrétaire général du CCEE. La rencontre entre chrétiens et musulmans en Europe est donc possible, même au niveau communautaire et associatif. Mais c'est dans le contexte d'un rapport sincère et réel que réside la possibilité et pour nous chrétiens, le mandat divin de témoigner sa propre foi, souligne-t-il. Le dialogue est un processus complexe, insistent les évêques, qui requiert la disponibilité à l'écoute, à connaître profondément la religion de l'autre, mais également une claire identité religieuse. Les participants à la rencontre entendent bien mettre l'accent sur la formation des jeunes en particulier, souvent portés au dialogue, mais aussi en quête de leur identité. Cette rencontre à huis clos se tient à la Fondation Royale de Sainte-Catherine, dans l'est de la capitale britannique. Y sont attendus le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Mgr Nichols, l'archevêque de Westminster, et président de la Conférence épiscopale d'Angleterre, ainsi que de nombreux experts de l'islam.
Plongeons-nous à présent un peu dans l'histoire, en particulier du christianisme primitif à Rome. 313-2013, il y a 1700 ans, était signé l'édit de Milan par les empereurs Constantin et Licinius. Ce texte, fondamental pour le christianisme puisqu'il autorise le culte chrétien, est commémoré à cette occasion. Jean Guyon, directeur de recherche émérite au CNRS, historien spécialiste du christianisme primitif et archéologue, revient sur la portée de ce texte.
Matériellement parlant, l'édit de Milan, c'est, comme on dirait aujourd'hui, le décret d'application des décisions qui avaient été prises en 311 par l'empereur Galère, qui avait été un grand persécuteur, et qui, peu avant de mourir d'ailleurs, arrête les persécutions. Mais dans un certain nombre de provinces, il y a des gouverneurs qui n'avaient que mollement appliqué l'édit, ou pratiquement pas, et c'est ce à quoi s'emploient Licinius et Constantin.
Est-ce que l'édit de Milan constitue cependant une nouveauté ?
Milan constitue une nouveauté fondamentale pour les chrétiens, parce que le motif des poursuites judiciaires qui avaient été engagées contre eux de façon générale dans les persécutions du IIIe siècle, mais de façon plus ponctuelle dès le second siècle. Les Français le savent bien, en 177, sont exécutés à Lyon, Potin, Blandine et quelques autres. Les chrétiens sont persécutés à cause de la législation impériale. Et la motivation de cette législation impériale, c'est que le christianisme n'avait pas le statut de religion reconnue. Les juifs l'avaient eu au moment de la conquête de la Palestine, parce que c'était un peuple à certains égards, donc on avait reconnu là une religion ethnique. Les chrétiens se sont lentement individualisés du judaïsme, mais à partir de ce moment-là, ils se trouvaient dans une sorte de vide juridique. Et donc l'élément essentiel pour l'Église de l'édit de Milan, c'est qu'elle a enfin une reconnaissance juridique. Mais l'édit de Milan, c'est un peu le moment où le fléau de la balance historique, si on peut dire, est comme suspendu. On a une sorte de temps suspendu. C'est-à-dire on a un point d'équilibre dans lequel désormais tout le monde peut exercer la religion de son choix. Mais contrairement à ce qui est quelquefois dit, écrit, voire prêché, ça ne signifie pas l'instauration d'une église constantinienne. Le malheureux Constantin est souvent chargé de tous les péchés parce que c'est de façon négative en général qu'on emploie cette expression. Pour que le christianisme acquière le statut de fait, sinon de droit, de religion officielle de l'Empire, il va falloir encore 80 ans pour attendre qu'en 392, l'empereur Théodose prenne un édit qui interdit le culte officiel des dieux, donc on ferme les temples, et qui interdit même le culte privé. Si vous êtes un aristocrate et que vous avez une chapelle privée chez vous, théoriquement au moins, vous ne pouvez plus sacrifier aux dieux. C'est-à-dire qu'en 392, ce sont les tenants de la religion traditionnelle, parce que j'aime pas beaucoup le mot païen, mais pour simplifier, disons, ce sont les païens qui désormais sont interdits de culte. Mais en 313, on est à un point d'équilibre.
Pourquoi ce changement d'attitude à cette période-là ?
Je crois qu'il y a à la fois la lassitude de la guerre, il faut vraiment pacifier, on a le sentiment qu'on arrive vraiment à une ère nouvelle de ce côté-là. Il y a surtout cela qui joue, qui est la prise de conscience que le christianisme est désormais partie intégrante du monde antique. Très minoritaire, certes encore, mais on ne peut plus considérer les chrétiens comme des citoyens de seconde zone, si on peut dire, des gens suspects et des gens que l'on poursuit, parce que désormais, ils sont suffisamment implantés au sein de l'Empire pour qu'ils y soient pleinement intégrés. C'est cela qui joue. Et c'est dans cela qu'effectivement l'édit a une force très grande, parce que ça consacre juridiquement l'existence de l'Église, mais ça reconnaît du même coup le christianisme comme un élément constitutif de la société du temps, alors qu'il était vu jusque-là comme une sorte de corps étranger, soit toléré, soit inversement persécuté.
Propos recueillis par Xavier Sartre. Ainsi s'achève ce magazine. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.org. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.